Bonsoir et bonjour selon votre position. Aujourd'hui, notre verset de la semaine concerne 1 Samuel, le chapitre 14. 1 Samuel, le chapitre 14. Je rappelle à tous que le livre de Samuel n'est pas un livre historique, mais un livre prophétique. Cela veut dire que ce que nous voyons, ce que nous commentons, ce que nous examinons dans ce chapitre est une prophétie pour nous. C'est quelque chose qui pourrait encore se passer, ou bien qui se passe même actuellement. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Lorsque nous lisons le livre de Samuel et de Roi, les livres de Samuel et de Roi sont des livres prophétiques et non des livres historiques. Donc, dans le chapitre 13, nous avons vu que Shaoul, le roi que l'Éternel s'est choisi, que le peuple a demandé, puisque Shaoul veut dire celui qui a été demandé ou choisi, réclamé. Et Shaoul a désobéi à Dieu. Donc l'Éternel l'a rejeté, alors que il avait déjà été averti auparavant, même avant d'être oint. Samuel lui avait dit, lorsqu'il a été choisi, que il ira à Gilgal, il devait attendre 7 jours, et dès que lui, Samuel, viendra, ils feront le sacrifice. Au fait, ce sacrifice-là était pour confirmer, parce que jusqu'à maintenant, c'est le peuple qui avait réclamé Shaoul, et l'Éternel Dieu avait dit oui, avait dit oui. D'accord? Donc ce sacrifice-là allait consacrer, affermir définitivement la royauté de Shaoul sur Israël. Il est bien vrai que, selon les prophéties, la royauté revenait à Juda. Or, Shaoul est de la tribu de Benjamin. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça aurait pu être fait. En tout cas, Dieu seul sait, on ne va pas spéculer là-dessus. Donc, Shaoul avait donc désobéi à l'Éternel Dieu, et sa royauté n'a pas pu être confirmée par Dieu ni affermie. Voilà, parce que il avait peur. Il avait peur. La foi nous aveugle. Pas la foi, il avait peur. La peur plutôt nous aveugle et nous éloigne de la foi. La foi nous paralyse. La foi perturbe notre jugement, perturbe notre vision de l'Éternel Dieu, parce que voilà, c'est le contraire, parce que la Bible nous dit que c'est le contraire de celui qui a la foi, donc qui est juste, qui a été justifié par le Seigneur Jésus ou Yeshua, que c'est David qui le dit dans un psaume, que le juste marche avec assurance comme un jeune lion. On a dit jeune parce que le lion jeune a de la force, est dans la force de son âge, pas un vieux lion, un jeune lion. Nous devons faire très attention donc aux mots que la Bible emploie. Comme Shaul a été rejeté, donc maintenant, il revient donc à l'Éternel Dieu de se choisir donc un autre roi. Et Samuel a annoncé à Shaoul. Malgré cela, je pense que Shaoul avait encore une opportunité de se racheter. Mais comme nous le verrons plus tard, il ne saisira pas cette opportunité. Il va encore désobéir encore à l'Éternel Dieu, et sa royauté sera définitivement rejetée. Voilà, il sera totalement rejeté. Voilà. Et pendant ce temps-là que Shaoul donc se comportait de cette manière, les Philistins, eux, avançaient. Pendant que les enfants de Dieu chutent, les enfants de Dieu désobéissent à l'Éternel Dieu, l'ennemi, lui, il avance ses pions. C'est pourquoi nous devons faire très attention de mener une vie conforme à la parole de Dieu. Donc, à la fin du chapitre 13, on nous apprend que les Philistins, trois corps d'armée des Philistins avec des chars et des chevaux sont sortis du pays des Philistins. Il faut dire que les Philistins sont sur la côte, hein. C'est le long de la côte d'Israël, ce qu'on appelle aujourd'hui Gaza. Voilà, ils étaient le long de la côte. Et ils avaient leur capitale donc à Gaza. Ou Gaza. On dit ça, Gaza ou Gaza. Donc trois corps d'armée étaient sortis donc pour faire la guerre donc à Israël. Et on nous apprend que dans tout Israël, il n'y avait pas de paix. Que les Philistins avaient privé les Israélites donc de fabriquer des armes. Voyez. Donc les Israélites étaient démunis. Seuls Shaul le roi et son fils avaient des armes. Et il n'y avait plus d'armes nulle part. Ah là là, quelle situation. Voilà quoi, c'était la situation. Donc je comprends que certains Israélites ont fui, se sont cachés dans les buissons, ou bien que d'autres carrément sont passés comme des mercenaires, donc dans le camp des Philistins pour faire la guerre à leur propre peuple. Vous voyez, donc la trahison se trouve même dans le, on peut dire, dans la communauté. Il y a des faux frères, hein, qui peuvent vous trahir, qui peuvent te trahir, mon frère et ma sœur. Des faux frères, des fausses sœurs. Nous tous, nous avons fait l'expérience de cela. Donc ici encore, c'est confirmé, c'est une prophétie, hein, que même dans le camp des Israélites à l'époque, il y avait des Israélites qui étaient passés comme mercenaires chez les Philistins pour faire la guerre à leur propre peuple. Voilà, peut-être parce qu'ils ne croyaient pas dans la victoire d'Israël, ou bien ils veulent simplement sauver leur vie. Sauver leur vie, on a vu, c'est des collaborateurs, on a vu pendant la période nazie, un peu partout dans les pays, il y a des collaborateurs, parce qu'ils estiment que l'ennemi est plus puissant, donc en passant à l'ennemi, donc ils sauveront leur vie et sauveront donc la vie de leur famille. Un pur mensonge. Donc on nous dit qu'il ne se trouvait pas d'épée ni rien du tout, donc Israël était démuni. Donc Israël ne pouvait pas faire face aux Philistins. Militairement, ils n'avaient pas de chance. Israël n'avait pas de chance, n'avait pas de la puissance de feu nécessaire pour faire face aux Philistins. Donc il ne reste qu'une seule chose, c'est la foi. Peut-être que toi aussi, tu traverses une période de la sorte, où tu es complètement démuni devant la situation, où tu n'as pas de puissance, tu te sens impuissant. Crie à l'Éternel Dieu. Voilà. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Bon, ce verset peut être interprété de plusieurs manières, mais quand tu lèves les yeux vers les montagnes sont grandes, quoi. S'il y a une immensité, tu vas trouver, ah, c'est immense, que tu es perdu, que tu ne peux même pas les gravir, aller jusqu'au bout. Ouais, mais lorsque tu cries à l'Éternel, l'Éternel t'envoie son sauveur. Et le Seigneur Yeshua lui-même nous a dit tout ce que vous demanderez. Il nous dit même de prier avec action de grâce. De prier avec action de, en remerciant le Seigneur. Il nous demande même avant de réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis Philippiens 4:4. D'accord? Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc nous allons faire quelques commentaires donc du chapitre 14. On nous dit, or, il arriva un jour que Jonathan, fils de Shaoul, dit au jeune homme qui portait ses armes, Jonathan, l'Éternel a donné. Jonathan. Nathan, c'est le verbe donner. Nathan, c'est il a donné. Il a donné. Jonathan. Yo, c'est le diminutif du tétragramme. Vous voyez qui est. Yod He Vav He. Ou bien Y H. WH, si vous voulez. Donc, Jonathan, l'Éternel a donné. Fils de Shaoul dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et passons vers le poste des Philistins qui est de l'autre côté Mais il ne le dit point à son père. La Bible nous apprend que le peuple s'était dispersé de Shaoul. Il ne lui restait que 600 hommes. Donc il a pris peur. Et Jonathan, comme son nom l'est, c'est l'Éternel vraiment qui a donné, parce que c'est un homme de foi. Un homme contrairement à son père. C'est un enfant qui a grandi dans, sûrement que Samuel était pour quelque chose. Samuel était pour quelque chose, donc dans la vie de Jonathan, parce que sûrement que il a été enseigné par lui, parce qu'il n'a pas les mêmes attitudes que son père. Voilà, c'était un jeune homme qui avait foi, qui connaissait l'Éternel Dieu, contrairement à son père. Contrairement à son père. Donc, Jonathan, l'Éternel a donné, donc, dit, hein, il ne dit pas par hasard, c'est par la foi, il va le montrer à la suite. Donc la Bible nous apprend également dans le verset 3. Nous voyons on a parlé le frère d'Ichabod. Ichabod, la gloire est partie. Kavod, ça veut dire poids, le mot là hébreu. La gloire est lourde, la gloire est lourde. L'Éternel Dieu a dit qu'il ne donnera sa gloire à personne, parce que cette gloire pèse, ça te tue, ça t'écrase même. Ça t'écrase si tu veux ravir la gloire de Dieu. Ça t'écrase. Parce que kavod est un mot qui veut dire lourd, poids, lourd, 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 lourd. Vous voyez? Donc, Ichabod avait un frère, sûrement qui était né avant. Puisque après Ichabod, Ichabod non seulement est décédé, mais également sa maman était décédée. Donc, sûrement que Phiné avait un fils aîné avant et qui a succédé à Élie dans la sacrificature. Donc, ce monsieur qui s'appelle Ahia, je vais te donner vraiment la signification du terme en hébreu, excusez-moi, hein, qui est Ashida, hein, qui est Ashida, veut dire quoi? Ahia, 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 c'est Ahia, qui veut dire frère de Yah, ou bien frère de Yah, c'est osé quand même, hein? Ou bien Yah est frère, Yah est frère, c'est quand même osé. C'est quand même osé, je me dis que Yah est frère. Oui, Yah est frère. C'est quand même osé de donner ce nom-là. Hein? C'est quand même fait. C'est un peu familier quand même que l'Éternel Dieu est frère. C'est un peu osé, mais bon, je ne vais pas trop commenter cela. Mais je trouve que c'est un peu osé. Donc, ce sacrificateur donc portait l'éphod de l'Éternel Dieu, donc sur le champ de bataille. Et il était là. Ce n'est pas par hasard qu'on a précisé cela, parce que ça aura son importance après, puisque Shaoul va vouloir demander des informations, interroger l'Éternel Dieu à travers l'éphod. Pourquoi il ne l'avait pas fait avant? C'est ça, quoi, que je me disais. Pourquoi il ne l'avait pas fait avant dans le verset 13? Pourquoi? Puisque l'éphod était là avec l'urim et le thurim, où il pouvait interroger l'Éternel Dieu. Puisque Samuel lui a dit, OK, attends 7 jours. Attends 7 jours. Et quand Samuel ne venait pas, il devait normalement interroger. Interroger pourquoi? Vous voyez? Il s'était arrogé le droit. Comme je suis le roi, il était. Je pense qu'il avait beaucoup d'orgueil. Méfions-nous de l'orgueil. Beaucoup d'aspects de notre comportement l'orgueil plutôt peut se cacher dans beaucoup de nos attitudes. Je me souviens qu'un frère m'avait dit que je suis orgueilleux. Et j'ai trouvé qu'il n'avait pas tort. Maintenant, bon, j'ai réglé le problème maintenant. J'ai réglé, mais je fais très attention mais maintenant sur l'orgueil. Hein, voilà, pour que l'orgueil ne se cache pas quelque part en moi, quoi. Même par rapport aux frères, dans mes relations avec les frères et sœurs, même dans mes relations professionnelles. Il faut que je fasse attention. Nous devons tous faire attention de ne pas devenir orgueilleux. Donc, Jonathan donc est parti seul avec le jeune homme qui portait ses armes, parce que il avait foi en l'Éternel Dieu. Enfin, sinon, il ne serait pas parti. Vous allez voir que ce que la Bible nous dit. Donc, Jonathan donc allait se montrer donc au poste des Philistins. Bon, moi je vois le champ de bataille. Les Philistins étaient en hauteur sur une élévation et Jonathan, les Israélites étaient en bas. Donc Jonathan était en bas. Et on nous dit même sur dans le verset 4 que là où il allait passer, il y avait deux dents de rocher d'un côté et d'autre. Donc Jonathan était donc sur un terrain découvert. C'est un terrain découvert, donc les Philistins pouvaient lui décrocher une flèche. Et ce qu'il a même fait après nous montre vraiment sa foi. D'abord, une dent de rocher d'un côté et de l'autre. Un de ces rochers porte le nom de Bosset, Bosset, qui veut dire brillant blanc, et l'autre, séné, épineux. Donc il y avait un qui est très blanc, brillant. Si le soleil se reflète dessus, il t'aveugle, et l'autre, c'est épineux, donc tu ne peux pas grimper sans se faire piquer. Sans se faire piquer. Peut-être que ce sont des métaphores, hein, mais bon. Moi, c'est le commentaire que je fais dessus. Vous voyez, il y a un des rochers qui est brillant, qui t'aveugle, puisque c'est brillant et que c'est blanc, ça t'aveugle. Donc, tu ne pouvais pas voir tes ennemis, puisque tu es aveuglé par la lumière de ce rocher. Et l'autre, c'est épineux, ça te pique, tu ne peux même pas grimper vite. Donc il faut écarter ces épineux, ces arbustes et qui ont des épines, voilà, et des ronces ainsi de suite pour pouvoir grimper, aller vers les Philistins. D'accord? Donc Jonathan était très vulnérable. S'il n'avait pas la foi, il n'allait pas vraiment s'engager. Parce que la Bible nous dit que Jonathan et Jonathan, parce qu'on dit Jonathan, et celui qui se servait de ses armes, hein, allait grimper à main nue. Donc ils ne pouvaient pas utiliser leurs armes. Quand on grimpe avec ses deux mains, on ne peut pas. Donc il était vulnérable à la merci des Philistins qui pouvaient lui décrocher une fraise. Je le redis encore. Vous voyez la foi de Jonathan et de celui qui le suivait, parce que, et puis, regardez, il y a eu quelque chose qui m'a plu ici. Il est dit que, dans le verset 11, après je reviendrai aussi sur le verset 10, 8 et 10. Ils se montraient tous les deux aux postes des Philistins. Les Philistins disent, voici les Hébreux qui sortent des trous, ils sont cachés. Et s'adressait à Jonathan, qui pense, ok, je vais d'abord faire le verset 10, s'il vous plaît, parce que Jonathan, donc, a dit quelque chose de fort. Il a dit là-bas. Il a posé comme. Il a posé une condition à Dieu, comme le toison que Gédéon avait aussi posée. Il faut avoir de la foi pour dire ce que Jonathan a dit. Vraiment, il faut avoir de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourrais pas dire ça. Et celui qui portait ses armes aussi était déterminé à aller avec lui. Vous voyez, c'est ton pied, mon pied. Hein? Lui aussi avait cette foi-là. Il partageait cette foi. Vous voyez, il suivait Jonathan dans tout ce qu'il décidait. Et Jonathan a posé un toison et il a dit qu'ils allaient se montrer aux Philistins. Et que si les Philistins disaient, OK, attendez, ils n'iront pas. Mais que s'ils disaient, montez vers nous, ce sera un signe que l'Éternel les a livrés entre leurs mains. Voilà. C'était le signe. C'était le signe que Jonathan a posé comme toison à l'Éternel Dieu. Vous voyez, comme toison à l'Éternel Dieu. C'est ça. Poser comme condition. Il faut être un homme de foi pour poser cette toison-là. Il faut être un homme de foi. Hein. Vraiment, c'était quelque chose de fort. C'était quelque chose de fort. C'est parce qu'il avait la foi. La foi, Emouna. Hein, Emouna. D'où vient le mot Amen? Le mot Amen vient du mot Emouna. Confiance. C'est ça en hébreu. Et il a posé sa toison. Que si les Philistins disent montez, ils sauront que c'est l'Éternel les a livrés entre les mains. Cela nous servira de signe. De tav. Signe en hébreu veut dire tav. C'est-à-dire la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Tav. Il paraît que dans son écriture, Tav anciennement était une croix. Était une croix. Ça a été changé, mais c'était une croix. Aujourd'hui, c'était comme un encadrement de porte. Mais il paraît que c'était une croix, je ne sais pas. Avant. Ça veut dire signe. Donc, effectivement, ils sont montés et les Philistins, quand ils se sont montrés donc aux Philistins, et les Philistins ont dit à Jonathan et à celui qui portait ses armes de venir. De venir. Voilà, de venir. Et là, ils ont su que l'Éternel avait exaucé leur foi. Avait exaucé leur foi. Contrairement à Shaul, qui était là, qui n'avait pas la foi, qui craignait que le peuple l'abandonne. Ouais, c'est entre le Père et le Fils, il y a une différence dans la connaissance de Dieu. D'accord? Dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance qu'ils ont de Dieu, il y a une différence. Jonathan semble mieux connaître l'Éternel Dieu que son père. Je répète, Shaul ne connaissait pas véritablement l'Éternel. Peut-être qu'il a entendu parler, peut-être qu'il a vu des choses, mais c'est simplement la royauté qui l'intéressait sûrement. Alors que Jonathan, on voit une certaine humilité en lui. Une certaine humilité, c'est la foi est en lui. Ouais, la foi est en lui. Et il a dit quelque chose de très important. Il a dit que rien n'empêche l'Éternel de sauver pas une grande armée et que pas une petite. Voilà, que pas une petite. Et quand ils se sont montrés, donc les Philistins leur ont dit de venir. Et Jonathan a fait quelque chose. Il dit, les Philistins disent, les hommes du poste crièrent à Jonathan et celui qui portait ses armes et dirent, montez vers nous et nous vous montrons quelque chose. Alors Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi. Cette phrase vaut de l'or. Monte après moi, car l'Éternel les a livrés entre les mains d'Israël. Hein? Voilà, entre les mains d'Israël. Et il a aussi dit dans le verset, c'est dans le verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses viens, passons vers le pot des incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de délivrer avec beaucoup de gens ou avec peu. Et Jonathan disait dans le verset 12 au jeune homme de monter après lui. Ça, c'est fort. Lui, le général, lui, le prince. Normalement, c'est son garde du corps qui devait le protéger, comme font beaucoup de généraux. Beaucoup d'officiers ne vont pas sur le champ de bataille le plus souvent, de peur d'être tués. Ils envoient les hommes, puisque c'est eux qui dirigent. Ils envoient les hommes. Eux-mêmes restent en arrière et leurs hommes se font tuer. Alors qu'ici, c'est le contraire. Parce que Jonathan avait cette foi en l'Éternel Dieu. Et je disais tout à l'heure que ils montaient en terrain découvert parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser jusqu'à ce qu'ils atteignent le poste des Philistins. Ils étaient à la merci des Philistins. En plus, les éléments naturels étaient contre eux. Il y avait un rocher à droite et à gauche, l'un qui brillait, qui l'aveuglait, et l'autre qui le piquait, qui leur piquait les mains. Hein? Donc, il faut avoir vraiment une foi hors norme pour monter vers une armée qui est au-dessus de toi. Mais on te tire comme un pigeon. Ça va être le tir au pigeon, quoi. Mais comme il avait cette foi en l'Éternel Dieu, mais il est monté le premier. Son serviteur était derrière lui. Monte après moi, car l'Éternel les a livrés entre les mains d'Israël. Il n'a pas dit entre ses mains. On voit encore l'humilité de Jonathan. Alors que Shaul, Jonathan avait remporté une victoire, mais il se les est attribués. Il se les attribué. Et Shaul a fait ça. De la même manière, beaucoup dans tous les gouvernements, vous savez, vous travaillez pour quelqu'un, pour une entreprise, quand il y a le succès, on ne parle pas de toi, hein, même dans les gouvernements, hein, tu fais quelque chose de bien, on ne parle pas de toi. C'est le gouvernement de ton pays qui reçoit le prix et toi, tu n'as rien. Toi, tu n'as rien du tout, du tout, du tout, du tout. Mais oui, c'est comme ça, surtout dans les pays africains du tiers-monde là, hein. On ne partage rien avec celui qui a travaillé, ou bien les mains qui ont travaillé, qui ont amené à la réussite du projet. Ici, non. Jonathan ne s'est pas attribué la victoire, ne s'est pas attribué cette foi. Il a parlé que l'Éternel les livre entre les mains d'Israël, de tout le peuple, alors que Shaul, c'est plutôt. Voyez son orgueil. Tout le peuple d'Israël a entendu Shaul abattu le poste des Philistins alors que c'était son fils. Et Jonathan est monté en première ligne. Hein? Dans beaucoup d'assemblées, en tout cas, je ne sais pas, mais les pasteurs restent au bureau. Hein? En tout cas, certains restent au bureau. C'est les ouvriers qui vont sur le champ de bataille, qui vont, qui luttent, qui font ainsi de suite. Et certains pasteurs qui sont repus, qui ont bien mangé comme il faut, donc restent au bureau. Mais ici, non. C'est vraiment un enseignement capital que nous-mêmes, qui avons des projets, qui sommes responsables d'une assemblée, qui sommes responsables d'une œuvre, nous devons monter en première ligne. Nous devons monter sur le front face à l'ennemi, de ne pas trembler parce que nous avons cette foi dans le Seigneur Yeshua. Nous avons cette foi en l'Éternel Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu va utiliser la puissance de résurrection qu'il avait utilisée pour son fils, pour le ressusciter des morts. Mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu est le seul être dans ce monde. Nous ne sommes que des contingences, mes frères. C'est lui seul qui existe. Il existe et il donne l'existence. Il vit et il donne la vie. Comprenons cela. Donc quand Jonathan et celui qui portait ses armes sont montés à terrain découvert, ils ne pouvaient même pas se servir de leurs armes, et l'Éternel Dieu a paralysé les Philistins jusqu'à ce que Jonathan et celui qui portait ses armes donc arrivent au niveau des Philistins. Donc Jonathan, le verset 13, on va s'arrêter au verset 15. Hein. Jonathan, montant ses dents des mains et des pieds, en ses dents des mains et des pieds, il n'était pas armé, il était vulnérable. S'il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il serait tiré, parce que les gens avaient des flèches à l'époque. Mais l'Éternel Dieu les a paralysés. De la même manière, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, l'Éternel Dieu va les paralyser. C'est ce qu'il a fait pour les compagnons de Daniel contre le feu que Nebuchadnezzar avait allumé. La Bible nous dit même l'odeur du feu ne s'était pas attachée à eux. Dans la traversée de la mer des joncs, pas de la mer rouge, hein, les Israélites n'ont pas traversé la mer rouge en sortant de l'Égypte. Ils ont traversé de la mer des joncs, Yamsouf. Ils ont traversé Yamsouf, la mer des joncs. Si on devait traduire ce qui s'est passé, la Bible nous dit qu'ils ont traversé la mer sèche. Mais oui, c'est-à-dire qu'ils ont traversé la mer, mais ils n'étaient pas mouillés. Ils ne se sont pas mouillés. L'eau ne s'est pas attachée à leurs vêtements ni à leurs pieds. Ils ont traversé une mer sèche. Je ne sais pas comment ça s'est fait, hein, je ne sais pas. C'est loin des films qu'on nous a montrés dans les 10 commandements. C'est loin de ces films. On nous dit également, la Bible nous dit, hein, que Jonathan et celui qui portait de ses armes, donc se sont érigés jusqu'au niveau des Philistins, en se donnant de leurs pieds, des mains, dont ils étaient vulnérables, mais l'Éternel les a protégés, l'Éternel les couvrait, ainsi de suite. Et les Philistins tombèrent devant Jonathan. Jonathan n'était pas armé, puisqu'il n'y avait qu'une seule épée. Les Philistins tombaient devant lui. De la même manière, mon frère, ma sœur, si tu as la foi, si tu es en Yeshua, et tu marches en nouveauté de vie, les événements tomberont devant toi. L'ennemi tombera devant toi. Les adversaires tomberont devant toi. Les circonstances mauvaises tomberont devant toi. De la même manière que l'Éternel Dieu a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et que les eaux ne te submergeront pas, tu ne seras pas mouillé. Tu traverses le feu, je serai avec toi. Et le feu ne te brûlera pas, tu n'auras même pas l'odeur du feu. Notre problème, c'est que nous manquons de foi. C'est que nous ne croyons pas ce que l'Éternel Dieu dit. Voilà, c'est que nous sommes encore dans une vision très limitée de l'Éternel Dieu. C'est que nous sommes encore dans le péché. Nous ne marchons pas en nouveauté de vie, ou bien nous ne marchons pas dans la sainteté, ou bien nous souillons notre robe, parce que l'Éternel Dieu, lui, il est disposé à tout faire pour nous, puisque la Bible nous dit, Yeshua lui-même, cette parole est sortie de lui. Tout ce que vous demanderez, mais à une condition, fais de l'Éternel tes délices et ils te donneront ce que ton cœur désire. Vous voyez? Et la terreur de Dieu, Jonathan, les gens tombaient devant lui et c'était plutôt celui qui était derrière lui, qui donnait la mort, qui tuait les Philistins. Mais devant Jonathan, il y a une différence aussi entre Jonathan et celui qui portait ses armes. Vous voyez? C'est ça. Jonathan c'était l'homme de foi, le capitaine qui est devant. Hein, qui est devant. Les gens tombaient devant lui. Tombaient devant lui, sans épée, sans combattre. Alors que celui qui est derrière lui, qui n'était pas dans la vision, qui suivait Jonathan, lui, il était obligé d'utiliser son épée. Mais Jonathan, non. Donc, 20 hommes ont été tués devant Jonathan donc et celui qui portait ses armes. Et la Bible nous dit que la terreur, il y a eu un grand mais effroi dans le camp des Philistins et parmi tous les peuples, même la terreur, parce que le dégât était colossal. Deux hommes, ou bien on peut dire un et demi, parce que Jonathan avait la foi et celui qui lui le suivait simplement. Il n'était pas dans la vision. En tout cas, il suivait quand même Jonathan. Et à partir de ce point, de ce petit point, la terreur de Dieu, la défaite, la peur s'est diffusée d'une manière centripète à tout le pays des Philistins. Et tout le pays trembla. Et la Bible nous dit que ce fut comme une frayeur envoyée de l'Éternel Dieu, envoyée d'Élohim. Le mot Élohim, qui a été traduit par Dieu, veut dire au fait le maître de toutes les forces. Le maître de toutes les forces, c'est ça, en hébreu, le maître de toutes les forces. D'accord? Tout le pays trembla, le maître de toutes les forces, parce que l'Éternel Dieu a la capacité de faire trembler. Il n'a pas besoin d'une arme, hein. Il n'a pas besoin d'un missile, puisque là, on nous apprend par l'actualité qu'il y a des pays qui détiennent une arme climatique, c'est-à-dire ils peuvent provoquer des tremblements de terre. Ils peuvent provoquer des pluies, ils peuvent provoquer de la neige, ils peuvent provoquer des choses désagréables dans d'autres pays, causant des dégâts énormes. Mais ici, l'Éternel Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il est le maître de toutes les forces. Il a fait trembler à partir d'un petit point cette peur, cette terreur s'est diffusée d'une manière centrifuge, plutôt centrifuge, qui quitte le sang d'une manière centrifuge à tout le pays de Philistins, que tout le monde a commencé à trembler, tout le monde a commencé à avoir peur, et les soldats philistins vont se tourner les épées les uns contre les autres, parce que l'Éternel Dieu a semé le Maboul en eux, la confusion, le Babel est entré en eux, Babylone est entré en eux, la confusion est entrée en eux. Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur. Les temps qui viendront seront difficiles. C'est pas moi qui le dis, mais tout le monde le constate. Mais une chose, nous ne devons pas oublier, c'est que Yeshua, notre Messie, a dit: n'ayez pas peur. Il a parlé au présent, hein, le verbe. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Si nous avons les yeux fixés sur lui, toutes les choses de la terre pâliront peu à peu. Si nous avons cette foi, comme Jonathan a cette foi, toutes les circonstances contraires tomberont devant nous. Quelle que soit la situation, l'Éternel Dieu sera vainqueur, ou bien est déjà vainqueur, a déjà vaincu la situation. Yeshua a déjà vaincu pour toi. Entre simplement dans sa victoire. Entre simplement dans sa joie. Entre simplement dans sa puissance, dans son autorité. Parce que si nous sommes dans un avion, hein, si nous sommes dans un avion, comme le dit Ed Miller, c'est de lui que j'ai entendu pour la première fois. Si nous sommes dans un avion et que l'avion vole, nous volons aussi. C'est comme ça. D'accord? Puisque si nous sommes en Yeshua, non? En Jésus. Donc, tout ce que Jésus est, nous le sommes aussi. Parce que nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Toute sa puissance est pour nous. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous. Si l'avion doit tourner à droite, nous tournons aussi à droite. À gauche, nous tournons. Descend, nous descendons. Monter, nous montons aussi. C'est ça, non? Voilà, c'est la même chose. Mes frères, ma sœur. Mes frères, mes sœurs. Que le Tenant Dieu nous bénisse et nous garde. Je ne veux pas être long. Simplement, une exhortation à avoir confiance en l'Éternel Dieu, quelles que soient les circonstances, à ne jamais relâcher. Regardez ici, tout le peuple tremblait. Jonathan seul a eu la foi. et celui qui portait ses armes. Celui qui portait ses armes aurait pu se détourner de lui en le traitant de fou, hein, en le traitant de tout et n'importe quoi, ou bien aller le signaler à son père. Mais lui aussi avait cette foi-là, même si sa foi n'est pas pareille que celui de Jonathan. Mais lui aussi avait foi. Il a suivi, il a fait confiance à Jonathan. Mes frères, mes sœurs, mettons notre confiance, notre foi, notre émouna en Yeshua, et toutes les choses de la terre pâliront peu à peu. Nous sommes déjà vainqueurs parce que Yeshua a vaincu pour nous. Nous n'avons plus à vaincre. Nous entrons, nous profitons de la victoire de Yeshua, de Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, n'ayez crainte, ne soyez pas dans la crainte. J'ai vaincu le monde. Mes frères, Yeshua a vaincu le monde pour toi et pour moi et pour nous tous. Si nous avons foi, nous avons confiance en lui. Mais nous verrons la gloire de Dieu, nous ne serons pas Ichabod, la gloire ne partira pas, mais nous verrons la gloire de l'Éternel Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde et nous donne la grâce d'avoir cette foi inébranlable en lui. Amen et Amen.